Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Mon invité est Thomas Pradeloup, chargé de mission égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations. Ce métier assez peu connu est pourtant essentiel à la société, et c'est pourquoi j'ai tenu à l'interviewer. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Donc, Monsieur Thomas Pradeloup, bonjour.
Bonjour Camille.
Vous êtes chargé de mission égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations dans la ville de Bagnolet. Ça fait 1 an et 5 mois à présent, c'est ça?
Tout à fait. Je suis arrivée en septembre 2023.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle formation vous avez suivie et ce que vous avez appris lors de vos études?
Alors du coup, moi j'ai fait un bac ES. Après, je me suis dirigée vers Sciences Po. J'ai passé le concours des IEP communs. Je suis allée à Sciences Po Toulouse. Donc après les 3 ans de formation générale, j'ai choisi de faire un master donc, qui s'appelle Politique Discrimination Genre, qui est vraiment orienté sur ces questions d'égalité. Et ce que ça m'a appris, c'est vraiment les clés d'analyse sociologique, historique et juridique des discriminations, de l'égalité femmes-hommes, du handicap également. On a eu pas mal de cours sur ça, et donc ça m'a vraiment donné un bagage assez important pour justement me spécialiser après par la suite sur ces métiers de l'égalité.
Quel autre type de cours vous avez eu? Vous n'avez pas eu que des cours sur les discriminations femmes-hommes, les discriminations raciales pour les personnes handicapées aussi?
C'est ça, tout à fait. On a eu des cours égalité entre les femmes et les hommes. On a eu des cours plutôt orientés sur les discriminations raciales, etc., sur les discriminations LGBT. C'était vraiment un panel large de cours contre les discriminations en général. On a eu des cours d'égalité en entreprise. Enfin, voilà, c'est assez large et comme formation.
Donc, vous, après votre formation, vous êtes parti vers le public, mais est-ce qu'il est aussi possible de partir vers le privé en entreprise pour la RSE, par exemple?
Oui, tout à fait. Hein. C'est tout à fait envisageable. C'est un master qui ouvre à pas mal de possibilités. On peut effectivement s'orienter dans le public comme je l'ai fait, mais on peut tout à fait travailler en entreprise. Il y a de plus en plus... c'est des questions tellement d'actualité qu'il y a de plus en plus de postes... que ce soit orienté vraiment spécifiquement sur l'égalité femmes-hommes ou, comme vous disiez, sur la RSE au sens global.
Et comment s'est construite votre réflexion autour de votre parcours professionnel?
Alors du coup, j'ai toujours été marquée par les inégalités, les injustices, etc. Donc moi, je cherchais vraiment une manière de m'impliquer concrètement pour lutter contre les discriminations. Et donc, ce choix de master, il m'est apparu assez naturellement parce que c'est celui qui me correspondait le mieux avec qui je suis et avec ce que je voulais faire.
Et donc, en rentrant dans ce master, vous saviez à peu près quel poste vous voulez occuper par la suite?
Non, pas tellement. En vrai, quand je suis rentrée en première année de master, je ne savais pas vraiment quel type de poste je voulais occuper par la suite. Je savais que je voulais travailler dans ces métiers de l'égalité, mais je n'avais pas d'idée spécifique. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, je ne connaissais pas forcément ce type de poste, par exemple chargée de mission égalité, etc. Ce n'est pas des métiers que je connaissais forcément, donc que j'ai appris à connaître au fil de la formation. Mais je ne suis pas rentrée effectivement avec une idée fixe sur le métier que je voulais.
Quel a été votre parcours professionnel suite à ce master?
Alors du coup, moi j'ai fait un stage, le master en gros, donc c'est 1 an et demi de cours et après on a un stage de fin d'études de 6 mois. Donc moi j'ai choisi de le faire à la mission égalité diversité de la mairie de Toulouse. Donc j'ai été stagiaire chargée de mission égalité femmes-hommes. Donc ça m'a vraiment apporté les bases de ce métier, parce que c'est vrai que là, le métier que j'occupe actuellement, c'est le même type de métier, à part qu'il y a aussi la lutte contre les discriminations en plus dans mon bagage. Mais vraiment, ça m'a donné les bases de la création d'événements, etc. Donc ça a été vraiment très enrichissant comme stage, et j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur ce qu'on attendait d'un chargé de mission et quelles étaient concrètement ses activités annuelles.
Et qu'est-ce que vous avez fait exactement durant ce stage et quelle est la différence avec vos tâches actuelles ?
Alors, ce que j'ai fait pas mal de missions du coup pendant mon stage. On a par exemple organisé le mois de l'égalité, donc autour de la journée du 8 mars. Donc à Toulouse, il y a une exposition qui s'appelle Femmes inspirantes, femmes remarquables, qui met en avant des femmes dans l'espace public toulousain. Donc j'ai notamment participé à sélectionner les femmes et après à s'occuper de la partie technique avec le photographe, etc. Et après, pas mal de missions autour de l'égalité professionnelle, autour aussi du mois des fiertés. J'avais aidé pour le mois des fiertés. Donc vraiment un panel de missions assez large et très enrichissante d'un point de vue professionnel.
Et maintenant, vos missions ?
Alors du coup, mes missions à la mairie de Bagnolet. Donc il y a plusieurs volets. Hein. C'est vrai que c'est un métier avec pas mal de casquettes, mais il y a par exemple, le premier volet, je dirais que c'est le volet événementiel. Donc, c'est la création d'événements autour de ces journées-là. À Bagnolet, donc, on suit la journée du 8 mars, on fait une quinzaine de l'égalité. On suit la journée du 21 mars, on fait une semaine de lutte contre les discriminations raciales. On fait le mois des fiertés et on suit les 16 jours d'activisme de l'ONU contre les violences basées sur le genre. Donc, en fait, pour chaque événement que je viens de citer, pour chaque date, on crée une programmation. Donc à la mission, on est deux, donc moi je suis chargée de mission et je travaille avec ma collègue donc, qui est secrétaire de direction et donc qui m'accompagne au quotidien dans tout ce que j'ai à faire. Et donc c'est ce premier volet-là, et le volet événementiel, création de programmation, donc c'est programmation grand public, mais aussi programmation à destination des jeunes, donc on travaille beaucoup avec lycée, collège, école, etc. À la mission ici, il y a une spécificité, il y a aussi un gros volet accueil des victimes de violences. Donc, depuis maintenant un an, on est vraiment un lieu d'accueil et d'orientation de victimes. Donc on fait du primo accueil, c'est-à-dire que, bah, que ça soit par le cabinet ou par d'autres collaborateurs, on est informé de situations de femmes victimes. Après, nous, on prend attache avec elles, on les rencontre et on voit ce qu'on peut leur proposer en termes d'accompagnement. Et donc, suite à ça, par exemple, on a une grosse responsabilité dans le relogement. À Bagnolet, on est signataire d'un dispositif qui s'appelle Un toit pour elle, donc qui facilite le relogement des femmes victimes de violences conjugales. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on inscrit les femmes au dispositif. Et après, c'est un dispositif départemental, donc l'Observatoire départemental pilote les inscriptions et les recherches d'appartements. Et nous, on joue le rôle d'intermédiaire.
Comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître auprès justement des femmes qui pourraient être victimes de violences ?
Ben, c'est vrai qu'on essaye le maximum lors de nos programmations, voilà, de faire connaître la mission égalité, de faire connaître ce qu'on fait. Par exemple, le mois prochain, il y a les journées de la santé. Et donc, on va être présent sur un centre social pour l'accès aux droits. Et donc, on va présenter la mission, concrètement ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment la volonté de présenter à la population bagnoletaise l'existence de la mission et comment elle peut les accompagner si jamais voilà, il y a des problématiques de violence.
Est-ce que vous êtes souvent bien accueilli par le grand public ou les acteurs locaux ? Comment est-ce que vous faites pour sensibiliser les différents acteurs à ce genre de problématiques ?
Alors c'est vrai que sur le territoire bagnoleté, il y a un très fort dynamisme, je trouve, sur ces questions-là. Enfin, c'est vraiment, on est toujours bien accueilli par nos interlocuteurs et interlocutrices. Et il y a toujours une volonté de travailler sur ces thématiques de l'égalité au sens général. Qu'est-ce qu'on fait pour sensibiliser ? Tout dépend de quel acteur on sensibilise. Mais nous, donc, comme je vous disais, dans mes missions, il y a le volet événementiel, donc plutôt grand public et externe. Mais aussi, on a tout ce qui est en interne. La mission participe beaucoup à l'élaboration des politiques publiques internes d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations au sens global. Donc, on va proposer aux agents des formations. Par exemple, on a fait un plan de formation l'an dernier sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà, c'est vraiment tout dépend de l'interlocuteur qu'on a en face. On travaille du coup avec les agents-agentes, mais aussi avec le public scolaire. Donc, par exemple, pour le public scolaire, on utilise beaucoup la forme du théâtre forum pour impliquer justement les élèves dans la réflexion sur l'égalité et la lutte contre les discriminations.
Quels sont les principaux enjeux en matière de lutte contre les discriminations dans la ville de Bagnolet en ce moment?
Alors du coup, Bagnolet, c'est une ville qui a une forte histoire déjà en termes de féminisme. C'est la première ville de plus de 30 000 habitants qui a eu une femme pour maire. On a eu une délégation à l'égalité femmes-hommes dès 2008, une mission égalité dès 2014. Enfin, pour une collectivité de cette taille, c'est assez novateur. C'est pas toutes les collectivités de 40 000 habitants qui ont cet ensemble d'engagement. J'ai oublié la question en vrai.
En fait, ma question, c'était quels sont les principaux enjeux en ce moment que vous mettez en place?
Quels sont les principaux enjeux à Bagnolet, ouais,
Oui.
c'est ça? Du coup, les principaux enjeux, c'est vraiment l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations au sens global. En termes de lutte contre les discriminations, on essaye, parce qu'en fait, de base, cette mission, c'était une mission égalité femmes-hommes. En fait, elle a été élargie aux discriminations depuis 2020, il me semble. On essaye de se positionner de plus en plus, parce que l'égalité femmes-hommes, là, c'est quelque chose qu'on a assez routinisé, qui est. On est sur le 8 mars, le 25 novembre, on fait plein de choses au cours de l'année. Et on essaye, du coup, de faire ce qu'on fait pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi dans l'aspect lutte contre les discriminations, donc d'être sur les questions de racisme, de lutte contre les LGBTophobies, sur les questions, par exemple, de grossophobie, des choses comme ça. Enfin, on essaye vraiment de s'impliquer sur tous les critères de discrimination, même si c'est vrai qu'il y en a 27 et que c'est compliqué de tous les traiter, mais on essaye de se positionner sur ces critères de discrimination et de faire des actions de sensibilisation. De formation en fait, impulser l'enjeu, je pense, principal, c'est d'impulser une culture de l'égalité réelle au sein des services, mais aussi dans la ville.
Donc, est-ce qu'il existe des spécificités qui peuvent être locales dans la discrimination et l'accès aux droits?
Ben, c'est vrai que, du coup, c'est une ville de Bagnolet, c'est une ville de Seine-Saint-Denis, donc on a vraiment enfin, plein de dispositifs qui viennent accompagner les habitants habitantes dans l'accès aux droits. Par exemple, ici à Bagnolet, on a une permanence des SOS victimes tous les mercredis qui vient accompagner tout type de victimes. Alors, c'est pas forcément de discrimination d'ailleurs, mais ils ont une très forte compétence pour les violences faites aux femmes. Il y a ça. On essaye de maximiser aussi de plus en plus les événements d'aller vers. Pour sensibiliser directement la population sur la question des droits, le droit des femmes, lutte contre les discriminations, etc. Par exemple, on a accueilli le van Info Femmes CIDFF à deux reprises l'an dernier. Donc, c'est un van qui vient directement sur le territoire et qui vient en fait à la rencontre de la population pour expliquer ce que c'est le CIDFF, pour expliquer les droits, etc. Et on a accueilli la caravane de lutte contre les discriminations. C'est un peu le même principe. Mais sous l'angle des discriminations au sens global.
Comment est-ce que vous avez réussi à vous former sur... Parce qu'en fait, lorsque vous parlez de vos missions, etc., je sens qu'il y a vraiment une grosse partie communication événementielle. Est-ce que c'est le master qui vous a formé à cela ou est-ce que vous avez appris sur le tas ou lors de votre stage?
Ben ici, à Bagnolet, on a la chance d'avoir une direction de la
Oui.
communication qui est très impliquée sur ces questions-là. Donc, c'est vrai que tout l'aspect communication au sens pur, c'est eux qui s'en chargent et qui le font très bien. Moi, de mon côté, c'est vrai qu'il y a cet aspect événementiel, comme je disais sur les premières questions. Cet aspect événementiel, on l'a traité un peu dans mon master à Sciences Po. Par exemple, je me rappelle d'un cours d'innovation sociale où en fait on devait monter un projet. En demandant une subvention, etc. C'est vraiment le même principe que ce qu'on fait ici, et c'est vrai que ça aide. Après, c'est vrai que sur le DA aussi, on s'améliore beaucoup dans la création d'événements. On pense vraiment, là maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis là, je pense vraiment à tous les aspects de la création d'événements de A à Z. Et donc, c'est aussi sur le tas que j'ai appris, mais il y a aussi cet aspect-là. Il y avait cet aspect-là dans mon master, et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi la nécessité de rechercher des subventions pour monter des projets. Donc voilà.
Quel est l'impact et l'importance des réseaux sociaux dans la lutte contre les discriminations? Est-ce que c'est un outil que vous utilisez?
Alors oui, tout à fait. Mais comme je disais, avec la direction de la communication, on essaye d'être le maximum présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc on essaye un maximum de visibiliser en fait ce qu'on fait. Donc par exemple, si on va faire une programmation sur le 8 mars, voilà, que ça soit bien présent sur tous les réseaux sociaux de la ville. Pour vraiment montrer que l'égalité femmes-hommes ou même la lutte contre les discriminations à Bagnolet, c'est un vrai sujet et que derrière, il y a tout un travail qui est effectué au sein des services et qu'on monte des événements souvent à destination de la population. Donc, c'est vraiment pour le coup super important de les faire connaître, ne serait-ce déjà pour que la population puisse en bénéficier, mais aussi pour montrer l'engagement de la ville sur ces sujets.
Quelle stratégie mettez-vous en place pour concilier l'exigence de votre travail sur des sujets assez sensibles quand même et le maintien d'un équilibre émotionnel?
C'est vrai que du coup, comme vous disiez, on accueille des victimes de violences conjugales ou voilà. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ça peut être assez compliqué d'un point de vue émotionnel parce qu'on peut avoir des récits qui sont très compliqués déjà à dire pour les victimes, mais aussi à entendre pour nous de notre côté. J'essaye au maximum de prendre le recul nécessaire en fait et d'être animé par une seule volonté, c'est d'aider au mieux les victimes et de les accompagner au mieux. Donc c'est vrai que j'essaye de prendre le recul nécessaire pour pas que ça ait trop de conséquences sur moi et mon moral, parce que c'est vrai que c'est des fois très compliqué d'entendre des histoires de viol ou de violences extrêmes. Donc il y a un recul nécessaire à prendre, mais toujours animé par l'intérêt général, j'ai envie de dire, et toujours animé par la volonté d'aider au mieux, d'écouter le récit et d'aider au mieux après la personne qu'on rencontre.
Et donc, quelles sont les compétences nécessaires dans l'exercice de votre métier?
Je dirais qu'il y en a vraiment plusieurs. Déjà, c'est aimer travailler en transversalité, donc avec tout un tas d'acteurs. Parce qu'en fait, on ne peut pas monter les projets tout seul de notre côté. C'est impossible. En fait, il faut travailler avec une multitude d'acteurs, une multitude de partenaires, que ce soit en interne au niveau des directions, mais aussi en externe avec des associations, etc. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment important. Comme autre qualité, je dirais être force de proposition. Parce que, mine de rien, les événements, c'est nous qui les créons. Donc, c'est nous qui les imaginons, qui les pensons de A à Z. Donc, il y a quand même cette nécessité d'être force de proposition sur ces projets et d'impulser cette culture d'égalité au sein des services et au sein de la ville. Donc, je dirais aussi rigueur, parce que c'est quand même créer des programmations, ça implique quand même une certaine organisation et de tenir, parce que souvent, en fait, à l'approche des dates comme ça, clés autour du 8 mars, 25 novembre, on ne peut pas organiser un événement 2 semaines avant. En fait, c'est impossible parce que les partenaires, si on travaille par exemple avec des compagnies de théâtre ou quoi, ils sont sursollicités à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit s'inscrire en amont dans notre travail. Donc vraiment c'est important cet aspect organisation.
Comment est-ce que vous arrivez justement à travailler cette créativité pour les événements?
C'est vrai qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, ce qui pourrait être implémenté au sein de la ville ici. Moi je regarde beaucoup ce qui se fait dans les autres villes, que ce soit du 93 ou même de la France en général. J'essaie d'implémenter ici à Bagnolet des actions qui ont pu déjà être faites sur d'autres territoires. Donc ça, je pense, une source importante de créativité. Et après, c'est vrai que en discutant, en travaillant de manière de manière collective avec nos collègues, je pense qu'on arrive à imaginer en fait des événements qui collent au mieux à notre volonté, donc de sensibiliser et d'impulser l'égalité. Donc il y a vraiment cet aspect-là, cet aspect je regarde ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qui est pertinent de faire ici. Et cet aspect, j'essaie de travailler aussi en groupe pour penser au mieux les événements et faire les choses les plus pertinentes possibles, des choses avec un ancrage territorial, de ne pas faire des choses hors sol, etc.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Ce qui me plaît le plus, du coup, c'est ce contact constant avec les partenaires, de rencontrer plein d'acteurs, d'actrices de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, plein de collègues avec qui on peut monter des beaux projets. Donc ça, c'est vraiment un des aspects qui me plaît le plus. Il y a aussi le montage de projets. En fait, c'est vraiment satisfaisant de voir un projet, donc de le créer et de voir sa finalisation. Donc par exemple, si c'est un spectacle, de voir la représentation du spectacle, ça montre en fait tout le travail qui a été fait, et c'est vraiment, je pense, les deux aspects du travail qui me plaisent le plus.
Et à contrario, ce qui vous plaît le moins ?
Je dirais peut-être tout ce qui est cadrage budgétaire, etc. Mais d'un côté, je vous dis ça parce que c'est peut-être le moins fun, entre guillemets, du métier, mais ça reste quand même super nécessaire parce que c'est ce qui nous permet en fait de financer nos actions, etc. Donc je dirais ça, mais sans non plus que ça soit une corvée.
Et quelles sont vos ambitions futures ?
Du coup, moi, j'aimerais bien continuer à me spécialiser sur l'égalité, à monter en compétences sur ces sujets-là. En fait, il y a pas mal de formations qui seraient intéressantes à faire pour que ce soit accueillir les victimes et répondre au mieux aux besoins des victimes. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de monter en compétences. De toute façon, c'est vrai que j'ai eu la chance de trouver un emploi juste après mon master. Donc voilà, l'envie de monter en compétences et de faire encore plein de belles actions ici.
Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait travailler dans l'accès aux droits et à la lutte contre la discrimination ?
Moi, je dirais de spécialiser, de ne pas avoir peur de spécialiser. C'est vrai qu'on peut souvent avoir comme préjugé que ce n'est pas des masters qui sont porteurs de beaucoup de débouchés, mais au final, si. Et je sais qu'il y a ce master-là à Sciences Po Toulouse, mais il y en a une multitude partout en France, en fait, de masters sur ces questions d'égalité, parce que c'est un sujet totalement dans l'air du temps. Et donc, il y a plein de masters, de spécialisations sur ces questions-là. Donc, de ne pas hésiter en fait, à faire ce choix de spécialiser sur l'égalité. Et les débouchés, il y en a dans les collectivités, que ce soit mairie, région, il y en a dans les ministères, il y en a dans le privé aussi. Il y a quand même vraiment beaucoup de débouchés. Donc, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, de ne pas avoir peur de spécialiser dans ces métiers-là.
Avez-vous un meilleur souvenir à nous faire partager ?
C'est vrai, du coup, ça fait un an et demi maintenant que je suis là, donc il y a pas mal de moments marquants qui commencent à émerger, mais je dirais que si je devais en choisir un, ça serait l'événement qu'on a fait l'an dernier sur la lutte contre le racisme. On a fait un théâtre forum avec des jeunes d'un lycée et des usagers et usagères d'un centre socioculturel. Donc il y avait cet aspect intergénérationnel et la salle était comble. Les échanges étaient super intéressants, donc c'est vraiment un des souvenirs marquants que j'ai, mais parmi beaucoup d'autres.
Eh bien, monsieur, je vous remercie beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant.
Mais merci à vous.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu, et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt !